Ça nous remet face à des réalités peut-être dans nos vies. Et puis, j'avais envie de vous partager ça pour nous encourager à dire « mais qu'est-ce qu'on veut ?» Et puis on peut le faire en Jésus. Et c'est vraiment la base sur laquelle nous sommes. Et j'ai vraiment envie de nous encourager à ce que, s'il y a une chose qu'on retient de ce truc-là, c'est « je prends position parce que je veux grandir avec Jésus ». Je veux vraiment vous encourager parce que lui nous accompagne. Amen. Ok. Alors, j'ai oublié ça. Voilà. Alors, on vit les forteresses spirituelles. Et avant même qu'on aille encore plus loin, j'aimerais vous donner un papier. Et sur ce papier, il y a quelques versets. Ces versets, c'est au lieu de la passivité. Comme ce soir, on va parler en deuxième partie de la passivité, je vous le laisse. Dans ces versets, enfin, ce n'est pas vraiment le verset qui est expliqué, c'est une phrase avec la référence. Et puis j'aimerais que si la passivité vous touche ce soir particulièrement, ben vous le mettiez dans vos Bibles ou à un endroit. Puis de temps en temps, vous pouviez méditer autant les versets que la phrase qui est donnée. Il y a des phrases, elles disent l'inverse de ce que le verset dit. Le verset dit « ça, c'est pas juste ». Et la phrase, elle dit « je ne veux pas entrer là-dedans ». Et il y a des versets, c'est simplement un raccourci. La phrase est un raccourci de ce que le verset veut dire. Mais que ça puisse vraiment nous accompagner par rapport à la passivité, d'accord ?
Non. Je le prendrai plus.
Puis comme ça, de temps en temps, on peut revenir dessus, on peut proclamer ces versets, on peut grandir. Voilà. Une question qui me vient. Qu'est-ce qu'une forteresse ? J'attends vos réponses. Une forteresse, c'est solide, ouais. Autre chose.
Ça protège.
Ça protège, ok.
Ça isole.
Ça isole, très bien aussi, oui. C'est quoi une forteresse encore ? D'autres avis, d'autres ? Ça fortifie.
C'est une fortification,
voilà, pardon, ouais. On a encore une personne. À quoi te fait penser une forteresse ?
Une défense.
Tout ça, c'est juste. Puis il faut qu'on puisse réfléchir à ce qui a été sorti, à ce qui a été dit, pour cette notion de forteresse. Qu'est-ce qu'une forteresse ? C'est un lieu fortifié, organisé pour la défense d'une ville ou d'une région. Ça peut aussi être considéré comme une citadelle qui sert de prison d'État. Il y a des forteresses qui ont été créées juste pour être des prisons. Ce qui protège, défend avec force quelque chose ou quelqu'un. Ce qui résiste à l'action, au courant extérieur, rempart, citadelle. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le dictionnaire. Hein. Département qui est une forteresse du conservatisme, une forteresse de préjugés. Autrement dit, la notion de forteresse, elle est large, autant dans un sens de protection que dans un sens d'isolement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Forteresse spirituelle. Pensée, opinion, philosophie, attitude, habitude et valeurs qui résistent à la vérité de Dieu. Et c'est vrai que des fois, on a des clichés sur certaines choses. J'en sais rien, mais pendant toute mon existence, pour moi, Dieu, c'était un petit peu un père fouettard. Un gentil papa, mais père fouettard. Et bien ça, c'est typique, c'est une forteresse. Parce que ce n'est pas la réalité de comment Dieu fonctionne. D'accord ? Et ça devient une forteresse parce qu'en fait, ça nous prend notre attitude et notre fonctionnement et notre compréhension du message de Dieu. D'accord ? Alors, ça peut aussi être le système de raisonnement contre la connaissance de Dieu. On résiste à son amour, Dieu m'aime, ouais, mais t'as vu comment je suis ? Dieu m'aime pas. Moi, je tombe tout le temps, j'y arrive pas. Ça peut être un mensonge de forteresse. Ou obéir à Dieu. Non, mais aujourd'hui, la Bible, ce qu'elle a écrit, ça n'a plus de sens. Ça peut être une forteresse aussi. J'obéis à Dieu dans ce qui m'arrange, par exemple. Résistance à la parole de Dieu. Lire la Bible, il suffit de prier, puis Dieu nous guide, mais lire la Bible. Vous voyez un peu différents éléments, par exemple ? Une forteresse spirituelle, c'est une stratégie de Satan qui est de nous opposer au plan de Dieu. Et il fera tout pour, dont des choses que l'on vient de voir. Mais il va tout toucher. Le couple, la famille, l'église, les cultures que nous avons. Des fois, la culture peut être un piège également, afin de s'attacher ou de préférer ce qui est contraire à la volonté de Dieu et nier la vérité de Dieu. Ça fait réfléchir parce qu'on est vite pris dans quelque chose. Je prends un exemple, je connais une personne, il était marié depuis des années, mais dans son pays, la culture lui avait réservé une épouse. Et il était ici en Suisse, marié, mais un jour son père a téléphoné, et pourtant c'était une personne qui était engagée dans l'église. Et son père a téléphoné, et il lui a fait « Tu dois quitter la femme avec laquelle tu es dans la culture, c'est celle-là ta femme. » Et malgré tout ce qu'on a fait pour l'encourager, la culture était la plus forte, il a divorcé, il est parti au pays pour se marier. Alors qu'il ne connaissait même pas la fille avec qui il était au pays. La culture a été plus forte que l'engagement de la Bible par rapport à la notion du couple. C'est un exemple. Et si nous refusons la volonté de Dieu, peu importe où dans notre vie, nous laissons à Satan le droit de bâtir quelque chose, une forteresse pour son œuvre. Je prends un exemple, pendant toute ma vie, j'ai eu des problèmes pendant une vingtaine d'années, et bien non, ça fait plusieurs années que Dieu m'en a délivré, alléluia, j'étais lié à la pornographie. Alors c'était beau d'être caché dans son coin et de ne rien dire, d'accord ? Et tout d'un coup, on laisse une porte de plus s'ouvrir, et tout d'un coup, ça devient plus grand, et tout d'un coup, les barrières, il n'y en a plus. Et on a envie d'aller toujours plus loin, c'est même pas qu'on en a envie, c'est que tout d'un coup, on en est fortement attiré par ce qui est de pire en pire. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé une fois un droit dans notre vie, et l'ennemi nous emprisonne, et il a ce droit. J'ouvre une porte, il la saisit. Nous, on a la grâce de la repentance. Et Dieu peut arrêter ces choses-là, amen. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nous avons un héritage. Et dans ces cours, on apprend à entrer dans notre héritage et à partir des plans de Dieu, d'accord ? Qui parmi nous peut dire « ma vie, elle est sans péché » ? C-E-N-T. Exactement. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, il nous parle de cette guerre contre notre corps charnel. Je fais ce que je ne veux pas, mais je ne fais pas ce que je désire. Hein, on est en conflit, ça c'est clair. Exemple, l'orgueil, l'autosuffisance, l'indépendance de Dieu. On peut passer des journées entières sans parler à Dieu, sans lire notre Bible, sans prier, sans même y penser. Ou tout d'un coup, on a des situations, puis on se dit « ouais, moi je vais y arriver ». Comme moi, avec la pornographie, j'étais là, non, mais j'en parle pas, mais cette fois-ci, c'est bon. Cette fois, je vais tenir le coup, et bam. Et on est fort, et Dieu, on n'en a pas besoin. Parce qu'on pense qu'on va y arriver. Et dans le domaine des addictions, c'est quelque chose où beaucoup de ceux qui sont sortis de ces milieux peuvent dire, oui, je croyais être fort par moi-même, je croyais que j'y arriverais. C'est des choses qui sont en fait, l'orgueil, l'autosuffisance, l'indépendance de Dieu, c'est des choses qui sont opposées à Dieu. Donc ça plaît à qui ? À notre ennemi. Souvent on y est bien. Les gens ne savent pas ce que je vis. C'est bien. Comme ça je gère moi ça tout seul. Notre petit confort personnel entre guillemets. Notre malheur personnel dans lequel on s'enferme nous-mêmes. Mais on a des fois l'impression qu'on y est bien. Accepter une logique, une parole qui va à l'encontre de ce que l'on croit, c'est pas une mince affaire. « Ouais, ouais, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Si je suis tout seul, je vais y arriver. Comment ?» Puis on entre dans des raisonnements, dans des manières de faire qui nous éloignent de Dieu. Pendant toutes ces années où je vivais ça, ces différents problèmes, on m'a fait comprendre que je n'étais pas à ma place. Non, ce n'est pas par rapport à lié à mon addiction, c'est de manière générale. Depuis que je suis petit, on m'a toujours fait comprendre que je n'étais pas à ma place. On m'a toujours fait comprendre « ouais, ouais, c'est Yann ». On m'a regardé à l'âge de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, comme quelqu'un qui en avait 10 de moins, mentalement, physiquement, et j'étais le débile de la classe, tout le temps. Je vais vous ressortir une belle phrase, quand j'étais en camp, on m'appelait la tête de grenouille, pour se moquer, on me disait « Yann, tu es laid ». J'ai vécu avec ça, je ne pouvais pas sortir de classe sans me faire taper dessus, pendant toute ma scolarité. Et quelque part, la critique, elle a commencé de m'habiter, d'une certaine manière. Alors j'étais devenu un chef de gang réputé le soir dans mon lit avec mon coussin. En fait, ce que je faisais, je croyais que ce que je faisais ne fonctionnait pas. Alors j'aimais Dieu, et heureusement, je faisais plein de bêtises aussi. Mais en fait, je croyais que chaque erreur que je faisais, Dieu me tapait dessus. Autrement dit, je n'étais pas aimé, effectivement, je n'étais pas à ma place et je n'honorais pas Dieu. Quand on s'intéresse à moi, juste pour un besoin spécifique, c'est ce que j'ai vécu et que je vis encore. Ah ouais, mais on va appeler Yann parce que j'ai besoin de ça. Résultat, si on n'a pas besoin, Yann n'est pas là. C'est pour donner des exemples de comment les fonctionnements, de comment ce qu'on a mis sur nos vies peut avoir un impact. Pour finir, on finit par croire à ces mensonges. Et ça peut toucher tellement de domaines dans notre vie. Si on te dit toujours que tu es un incapable, tu n'as plus envie de faire les choses. Non, mais de toute façon, j'y arrive pas, je suis un incapable. Et il y a un verset dans la Bible qui dit « Dieu ne néglige pas les petits commencements. » Nous ne sommes pas des incapables devant Dieu. Jean 8, 31 à 32 nous parle. « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Osez prendre et tenir compte de ce que Dieu dit de nous. » Gros challenge, hein. Vous connaîtrez alors la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Si Dieu dit qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime. Si Dieu dit que tu es merveilleux, c'est que tu es merveilleux, même si le monde te dit t'es nul. Et comment on va apprendre cette vérité de Dieu? Comment les forteresses spirituelles sont-elles construites? Quand on permet à l'ennemi d'occuper une place dans nos vies à cause du péché, c'est simple. C'est simple. Mais alors pour le vivre, tu commets quelque chose de faux, tu ne veux pas te repentir, tu penses que dans ton coin ça va aller, il y a problème. L'ennemi en profite et il a ce droit. C'est fou, hein? Mais il y a des règles spirituelles et Dieu ne va pas à l'encontre. Seulement Dieu a payé à la croix le sang et la vie. Parce que la règle spirituelle, c'est que l'ennemi a droit à nos vies. Mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Et donc, nous pouvons entrer pleinement dans ce qui nous sort de cela. Mais je crois qu'il est important de comprendre que l'ennemi a des droits dans nos vies. Mais aujourd'hui, notre héritage, c'est d'en sortir. Et peut-être, si on a conscience de ça, ça nous aidera dans notre cheminement à faire attention. Et l'Éternel est bon, il y a un verset merveilleux dans la Bible, « Le juste tombe ». Jusqu'à 7 fois, mais il se relève. Le texte dit, c'est qui tombe? c'est qui tombe? Mais il se relève. Vous savez, par rapport à mon addiction, je croyais que personne ne le savait. Mais il est venu un temps où ma femme savait quand j'étais tombé. Elle pouvait ne pas être à la maison, elle pouvait n'avoir aucune notion de mes chutes dans le monde de la pornographie. Elle rentrait à la maison, elle le savait tout de suite. L'ambiance entière de la maison changeait quand je chutais. Le péché, on le voit dans la Bible, avec Achan, qui se révolte contre Moïse. Tout le peuple subit. Il y a le vol à Jéricho des choses qu'on a dit on ne touche pas et on a repris. Tout le peuple n'a plus pu se battre. Dans la notion du corps, quand il y en a un qui pêche, tout le corps souffre. Quand tu as un petit problème au petit orteil, tout ton corps boite. Il y a donc des règles. Et le péché est vraiment violent. Et le jour où j'ai compris la conséquence qui avait que ça menait la division dans mon foyer, ça m'a permis de voir les choses autrement et ça m'a aidé à me relever. Le péché a une conséquence, tu ne peux pas être tout seul face à ton péché. C'est pourquoi dans la Bible c'est aussi écrit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». C'est parce qu'il y a cette prise de conscience de ce que ça représente et que l'on avance. D'accord ? Dieu fait grâce. Et puis chaque fois, j'ai remarqué quelque chose, et peut-être, je ne sais pas si vous avez aussi des problèmes d'addiction tel ou autre, ou par rapport au péché, quel qu'il soit, il y a toujours, toujours, toujours un instant qui te permet de faire le choix. Toujours. Et quand tu commences de le découvrir, oups, là tu te trouves devant un vrai choix. Parfois c'est trop fort et tu tombes. Et parfois, tout d'un coup, tu arrives à le saisir. Et que chacun puisse se dire, Seigneur, montre-moi, permets-moi de capter ce temps, parce qu'il y a toujours un temps qui permet ce choix. Et ça, c'est une grâce incroyable. Ça donne le défi de marcher selon Dieu et pas selon ce que nous, on pense. C'est important de résister aux œuvres de l'ennemi. Résister, ça veut dire résister. On a vu la dernière fois la question de guerre. Important de prendre conscience de ses droits et notre droit en Jésus-Christ, c'est d'en sortir. Et on a le droit de dire à l'ennemi, ça suffit. Éphésiens 4, 26 nous indique que si on se met en colère, nous ne devons pas pécher, pour donner un exemple. Ça veut dire qu'il y a toujours ce choix qui nous est donné. Alors, est-ce que je suis trop loin ou pas encore? Non, c'est bon. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel ou le siècle présent. Mais ça, c'est tellement dur. Tout le monde, aujourd'hui, il y a une mentalité qui circule, et tout le monde peut le dire quand on discute au 1-1. Ah ouais, la mentalité du siècle commence à prendre l'Église. Faisons très attention. C'est pas confortable, des fois, de vouloir marcher comme Dieu le pense. Mais si on marche avec lui, on est tellement protégé. Et si on se laisse aller, ben, il y a des fois des conséquences. D'accord ? Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée ou de l'intelligence, dit aussi l'autre version, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Il y a des belles choses dans le monde, on est d'accord ? Alors demandons à chaque chose qui arrive, mais Seigneur, toi t'en penses quoi ? Qu'on puisse avoir cette attitude de se laisser conduire par Dieu. Et si des fois c'est dur, on a tendance à dire oui, mais c'est aujourd'hui, c'est comme ça, c'est normal, on ne peut pas s'en sortir, sinon on va pécher. Non, si Dieu est tout-puissant, lui-même nous donne les ressources pour aller de l'avant, et ça devient une sécurité. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Voilà ce que nous devons rechercher. Nos décisions, vous l'avez remarqué, sont souvent sur nos pensées. Est-ce que quelqu'un parmi vous n'a pas le permis de conduire ? Tout le monde a le permis de conduire ? D'accord. Alors, quand on roule, souvent il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas ? Ou alors je suis le seul. Et puis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a des fois, de temps en temps, rarement, tendance à s'énerver. Ou à crier. Ou à... En tout cas, moi. Et puis, on analyse une situation qui ne nous convient pas, à tort ou à raison. En fait, pour m'aider à cela, je demande certes l'aide de Dieu, et puis une idée qui m'est venue. Si dans la voiture de celui qui m'énerve ou dans mon comportement, il y avait quelqu'un de l'Église. Si dans l'Église, il y a peut-être le futur patron que je vais rencontrer, dans la voiture de l'autre ou dans le cadre. Si tout d'un coup, c'est justement la personne avec qui j'ai rendez-vous tout à l'heure. J'avoue que ça aide. Bon, le « il est encore bien présent. Mais on a ces possibilités. Je crois qu'il est juste et Dieu peut nous donner des clés pour nous aider. Si on bâtit sa vie avec de fausses pensées, nos actions seront fausses. Je suis nul, donc je vais me comporter comme un nul. D'accord ? Plus les valeurs se calquent sur ce qui est faux et on finit par accepter ce qui est faux. Et ainsi, la forteresse, elle se dessine. Et elle grandit. J'ai fonctionné des années dans le cadre de mon addiction avec le simple fait que même Dieu n'était pas capable de m'en délivrer. Quand tu es ça, tu es désespéré totalement. Parce que 20 ans d'addiction, c'est long. Et Dieu m'a fait un clin d'œil extraordinaire, c'est qu'un jour, il m'en a délivré. Donc, regardons ensemble le haut de la page 36 dans vos cours. Et vous voyez un plan. Construction des forteresses démoniaques, de bas en haut. On voit les pensées, c'est de là que tout part. Les décisions, donc on a encore le temps de se décider. L'action qui va en découler. Les valeurs qui, petit à petit, en fonction, finissent par faire notre identité. Le style de vie finit par changer. Et c'est là qu'on obtient des liens et parfois même des dépendances. Mais ça commence toujours par nos pensées. Tout commence par nos pensées. Ce que l'on fait avec ce que l'on reçoit. Et je crois qu'il est tellement important de régulièrement nous remettre devant Dieu et, comme on l'a vu avant, se laisser transformer par le renouvellement de notre pensée. C'est une clé essentielle dans notre fonctionnement avec Dieu. Renouvelle ma pensée, renouvelle mon intelligence. Corps, âme et esprit. On est un tout. L'humain est vulnérable face aux attaques de l'ennemi, c'est clair. Mais c'est normal si on marche sans Dieu. Et puis si on marche avec Dieu, il est encore plus fâché, donc il risque aussi de frapper un peu plus fort. Si cela vous décourage, ça veut juste dire si tu marches avec Dieu puis qu'il t'attaque, c'est qu'il n'aime pas là où t'en es. Donc si tu marches avec Dieu, c'est bien. Mais on a la force et la grâce de Dieu pour sortir de ce qui nous emprisonne, d'accord ? Et l'humain est vulnérable. Et donc l'ennemi a le droit d'oppresser. Mais on marche en Dieu, donc il est temps maintenant de comprendre que nous pouvons être libres. J'ai cru au mensonge que même Dieu ne me libérait pas. C'est faux. Tu peux être libre, totalement libre. Ça fait partie de ton héritage et du tout accompli à la croix. Tu peux entrer dans cette liberté. Que Jésus peut nous changer. Et on a un choix régulier et constant pour savoir qui nous voulons suivre. L'esprit, la conscience de Dieu, l'âme, conscience de soi, pensée, émotion, volonté, le corps, conscience du monde matériel, les cinq sens, la santé physique, l'apparence. Le chrétien combat aussi sur trois fronts, un peu en lien avec ces points-là. Le monde, le siècle présent, y a un ordre, un fonctionnement des valeurs et des pensées. Et ce monde est totalement opposé à Dieu. Donc aimer le monde, c'est haïr Dieu. Jacques 4,4 le dit, si vous voulez noter. La chair, c'est le deuxième point de combat. La nature pécheresse de l'humanité est en révolte contre Dieu et ses voies. C'est la chute de l'homme que l'on découvre de ce qui s'est passé en Éden. Je veux marcher par mes propres moyens et pas selon Dieu. Selon Galates 5, les versets 1 à 17, vous pouvez le noter. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit étape par étape. Jacques 4,7 nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et le troisième front, c'est le royaume de Satan qui est sans cesse en opposition. Il s'acharne par tous les moyens pour que le monde continue de plus en plus de s'opposer à Dieu. La corde à trois brins, on l'a souvent entendu, la corde à trois brins ne se rompt pas facilement. Mais c'est la même chose dans ce qui est difficile et dans les combats. Le monde, donc on a vu ces trois points, hein, renoncer aux mensonges du système de ce monde et remplacer par la vérité de Dieu. La chair, donner la mort à la chair en obéissant à la parole de Dieu. Au fonctionnement charnel, au fonctionnement, d'accord, pas à notre chair physique, pas qu'on se comprenne mal. Hein, à l'époque, ils se flagellaient, franchement. C'est pas ce que Dieu nous demande. Mais c'est le fonctionnement. Et le royaume de Satan, prendre autorité sur Satan et ses démons. Nous avons ce droit, rappelez-vous le cours de la dernière fois. D'accord ? La page 39. Sur la page 39, vous voyez un arbre, un tronc, Et puis, vous voyez les racines. Et on voit des résultats de nos vies de choses qui ne vont pas. Souvent, on imagine que si on règle cette chose, ça peut être la solution, ça va aller mieux. Mais la réalité, souvent, elle est autre. Si on voit un fruit de quelque chose, c'est parce qu'il y a des racines quelque part. D'accord ? Et c'est vrai, on n'a pas tous le même chemin et certaines étapes de vie. Chez l'un, ce sera cette racine qui va porter ce fruit. Chez l'autre, pour le même fruit, ce sera une autre racine. Et c'est là que c'est très important de ne pas forcément cataloguer, mais de se mettre à l'écoute de Dieu. Mais Seigneur, d'où vient le fait de ça ? Et le fruit, souvent, vient d'un parcours et de tout ce qu'on a vu, de cette pyramide qu'on a vue avant. D'accord ? Il y a un tronc qui permet à ce fruit d'être, mais également que tout ce qui est nourri par des racines, et souvent ces racines, on ne les voit pas. Les forteresses spirituelles sont le mauvais fruit de l'arbre de notre fonctionnement, et c'est pourquoi il est tellement important de confesser. Comme je l'ai dit avant, si on essaye nous-mêmes, c'est vouloir enlever le fruit, et enlever le fruit, et enlever le fruit, punaise, et enlever le fruit, puis tout d'un coup, il n'y en a peut-être plus l'espace d'un instant, comme on est arrivé en automne, il y a tout qui tombe, puis le printemps, ça recommence. Alors, on est de nouveau tout seul et on enlève le fruit, et puis le fruit, alors qu'on est censé enlever les racines. On a besoin de trouver les racines, c'est pour ça qu'on fait ce cours, Vivre Libéré. Soit Dieu nous les montre personnellement, soit il y a des cours, comme vous participez maintenant. Ou dans la prière, les uns avec les autres, tout d'un coup, Dieu peut conduire puis dire « Eh mais !» Et c'est tellement important de se mettre à l'écoute, parce que Dieu, lui, la voit à la racine. Et heureusement. Souvent, les racines, elles se trouvent dans des expériences injustes qu'on a vécues. Et c'était injuste pour nous. On n'a rien fait, on a vécu l'injustice. Et puis, souvent, ces racines, elles sont liées aussi au déficit d'amour. L'affection que nous avons reçue, l'amour que nous avons reçu, ou que nous n'avons pas reçu. Les traumatismes qu'on a pu vivre, je ne sais pas, des accidents, des décès, des guerres. Les péchés générationnels, on en reviendra dans d'autres cours encore. Les liens d'âme, les malédictions. Moi, j'ai vécu un cadre de malédiction. Ma grand-mère, elle avait fait mon je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est dans l'astrologie. Elle avait tracé toute ma vie sur la carte astrologique. Et ça m'a cassé, ça m'a détruit ma vie jusqu'à l'âge de mes 10 ans où quelqu'un dans la prière a reçu ça. Et puis ils l'ont brisé. Et puis j'en ai été délivré du jour au lendemain. Et tout mon fonctionnement a changé à partir de l'âge de 10 ans. C'est la première fois que ma maman s'est sentie maman à mon égard. Et c'est la première fois que mes relations ont commencé de changer avec mon entourage. Les malédictions, c'est un exemple. Ou bien s'il y a des malédictions qui ont été proclamées aux familles, il y a des gens, et les malédictions sur l'aîné. Tous tes aînés seront maudits, c'est des choses vraies. Et tout d'un coup, Dieu le révèle. Et puis on voit effectivement, ah ouais, le premier là, ah ouais, le premier là, ah ouais, il y a toujours eu quelque chose. Alors c'est des choses qui vont encore être vues, mais c'est des réalités. Et on n'y est pas forcément pour quelque chose. Dans le cours, vous voyez là, il y a différents cours, donc je vous laisserai après, pendant ce mois qui vient, revenez sur le cours, regardez les définitions qui aident à mieux comprendre ces choses, d'accord ? Et les causes, ce qu'elles sont. Certes, c'est partiel, mais ça permet déjà de donner des bonnes idées pour la suite. Parce que là, je vous en ai dit que quelques-unes, mais il peut y en avoir tellement d'autres, d'accord ? On ne fait pas un cadre floqué. J'ai dit floqué, c'est ça. Je prends l'exemple de la page 148 du livre, Vivre Libéré, je vais vous le lire. Du livre, pas du cahier. Du livre. Mais je vais vous le lire. David est un exemple parfait. Ce jeune homme fréquentait l'église dans laquelle celui qui donne l'exemple était pasteur. Moi, je crois que je vais plutôt le résumer. Ça va être plus simple, sinon on s'en sort pas, vu l'heure. En fait, cet homme avait toujours l'impression qu'il n'arrivait pas à être aimé de Dieu. Il n'arrivait pas. Il faisait tous ses efforts pour prendre du temps dans la relation avec Dieu. Il n'y arrivait pas. Je vais prendre du temps, mais ça ne marchait pas. Puis dans le temps de prière avec son pasteur, quand ils ont prié, il a été révélé qu'il avait eu des liens avec ses parents. Autrement dit, son père, qui était pasteur, n'était jamais à la maison. Ce qui fait qu'il vivait sans son père. Et sa maman était malade, très fortement malade. Ce qui fait que lui s'occupait de sa maman de manière constante. Et dans sa vie, Tout d'un coup est venu le mensonge qu'il n'était pas aimé par ses parents. Pourquoi ? Parce que son père n'était pas là, donc ne pouvait pas prendre du temps pour lui. Mon père ne m'aime pas. Alors que son père était régulièrement présent et s'occupait de lui. La même chose, maman ne m'aime pas, c'est moi qui fais tout pour elle. C'est moi qui agis. Donc lui, il avait un amour débordant, mais il pensait qu'il n'était pas aimé. Et il pensait donc que Dieu ne l'aimait pas. Et pour lui, c'était ça. Dieu ne m'aime pas. Moi, je fais tout, mais Dieu ne m'aime pas. Et ça l'a bloqué dans sa relation avec Dieu. Et dans ce cadre, dans ce temps de prière, ils ont ressenti qu'il y avait eu un vide de l'amour de Dieu et de l'amour des autres qui avait manqué. Alors ils ont prié pour que Dieu remplisse par cet amour. Et dans les temps qui ont suivi, il a ressenti, il y a eu guérison qui est venue. Il a pu demander pardon d'avoir cru au mensonge de ne pas être aimé de ses parents qui l'affectionnaient, mais qui ne pouvaient pas le lui donner comme lui l'imaginait. Et c'est terrible. Et puis dans ce pardon et cet accueil de l'amour de Dieu, sa vision, ce mensonge s'est cassé. Et il a pu ressentir l'amour de Dieu. Et ça a eu un impact jusque dans son couple, dans la restauration de l'amour même dans son couple. Et c'est une personne qui est très engagée dans son église à l'heure actuelle. Autrement dit, pour des choses qui peut-être nous semblent rien, il peut y avoir des forteresses et des choses, mais Dieu nous connaît. Dieu est là et Dieu restaure. Souvent, les forteresses sont en lien avec un déficit d'amour et c'est quelque chose qu'il nous faut démasquer. Et je crois qu'il n'existe pas un humain sur la terre qui peut dire « Moi, l'amour, je baigne dedans. » Et Dieu nous dit « Mais j'ai tellement à te donner, ça fait partie, tu es en manque d'amour parce que j'ai mis ce manque d'amour dans ta vie. » Autrement dit, ce n'est pas le manque, c'est la soif d'être aimé parce que c'est tout ce que je veux t'offrir. Et apprenons à marcher avec ce Dieu qui veut tellement déverser son amour. Je vous l'ai dit, dans ma scolarité, je me suis vraiment fait tabasser, rejeter, etc. Et pendant longtemps, j'ai cru que Dieu était mon père fouettard. Autrement dit, j'aimais Dieu. La seule chose que je savais, c'est que j'étais sauvé. Et je l'ai dit, je serais sauvé comme au travers du feu. Mais la certitude de mon salut est ce qui m'a gardé debout. Mais pour moi, chaque erreur, chaque plan, c'était Dieu qui venait et qui me mettait une fessée. Donc Dieu n'était jamais en content avec moi. Jamais. De temps en temps, je vivais quelque chose de magnifique, j'étais là « Merci Seigneur !» Puis le lendemain, ben ça y est, j'ai de nouveau pas fait ça, Seigneur. Et c'était un poids terrible. Et puis un jour, dans un cours, Dieu m'a montré cet amour qu'il avait pour moi. Et tout d'un coup, en ayant reçu les versets et les choses que j'ai reçues dans ce cours, j'ai commencé, je vous encourage à faire ainsi, tout ce que vous recevez pendant ce cours ou dans d'autres, ces versets qui vous parlent, notez-les. Et puis j'ai commencé à prendre des temps individuels devant Dieu, où je redéclarais, Seigneur, c'est toi qui m'as dit que tu m'aimes, je refuse de croire que je ne suis plus aimé. Seigneur, tu m'as dit que je suis une créature merveilleuse, tu me regardes donc autrement, tu dis que tu m'as pardonné. Donc tu me vois autrement, le juste tombe mais il se relève. Et d'autres versets de bénédiction que Dieu me disait, j'ai commencé de les proclamer et de chasser le mensonge dans ma vie. Vous savez, si je n'avais pas eu ça, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Certains de ces changements n'ont pas plus que 6 ans. Il y a 6 ans en arrière, j'ai vécu vraiment des clés. Et tout d'un coup, dans mon entourage, les choses ont changé. Tout d'un coup, les gens ont commencé à porter un attrait à ce que je disais et j'ai commencé de recevoir des encouragements et des bénédictions de personnes touchées par ce que je partageais. L'Éternel est vivant. Et l'Éternel veut vous apporter cette vie, d'accord ? Jean 17 nous indique que Dieu nous aime d'un même amour que ce qu'il a aimé Jésus. Dieu t'aime de la même manière qu'il aime Jésus. J'aimerais en page 40, mettez votre page 40. Et puis, vous regardez dans la colonne de gauche, tout en bas, il y a Éphésiens 3. Et puis je vous laisse juste quelques secondes pour que chacun individuellement vous puissiez lire ce Éphésiens 3. D'accord ? C'est ce qui est en italique tout en bas. Ça joue ? Pour ceux qui écoutent, je le dis, il y a un temps de silence, ceux qui écouteront le cours, parce que les gens lisent ce passage. Éphésiens 3, 14 à 21. Vous avez pu lire ? L'amour surnaturel de Dieu repousse l'ennemi. L'amour est l'essence même de l'identité de Dieu. Il nous a créés avec ce besoin d'amour. Et c'est de là que découleront les valeurs, la sécurité et l'importance de ta personne. Soyons partageurs de l'amour également. Le point D, là, dans les cours, comment l'amour est transmis, nous en donne des pistes. Le point E, à la page 41, nous montre des mots-clés afin de décrire les péchés qui produisent un déficit d'amour. Regardons, prenez le temps dans les temps qui viendront, dans ce mois, de regarder ces points. Si tout d'un coup on a vécu quelque chose dans nos vies, mais également si nous commettons aussi pareille chose. En manque d'amour, la base du bon développement selon Dieu est endommagée. Et ça favorise les actions du péché. Si rien ne change, ça touche notre identité, d'accord ? On va terminer sur cette image de la page 42, pour la première partie de notre soirée en tout cas. Tu veux pas changer ? T'arrives à passer l'image suivante ? Voilà. Vous l'avez hein, dans le cours. C'est pas la même, je l'ai transformée, ouais. J'ai mis la forteresse de Masada. Imprenable en haut de kilomètres, et puis les Romains ils se sont battus comme des malades pour faire une rampe de fou pour pouvoir la prendre. Donc elle était censée être imprenable. Les Romains l'ont prise. Peut-être l'ennemi a mis des choses dans nos vies qui sont censées être imprenables, mais Jésus est victorieux. Alors voilà des points qui touchent. Nous, on va voir ce soir la passivité dans la deuxième partie. Voilà des conséquences. Rejet, abandon, déficit d'amour, la révolte, la crainte. Et puis voilà des pistes qui amènent plutôt l'un ou plutôt l'autre, puis qui se rejoignent. Vous pouvez regarder, après aussi revenir dessus, c'est des indices. Hein. L'insécurité, quand on a de la passivité, ces choses-là, quand on vit l'insécurité, le suicide, l'infériorité, apathie, etc. De l'autre côté, la colère, la trahison, meurtre, jalousie, contrôle, intransigeance, compétition, orgueil, etc. Voilà des points que l'on peut démasquer, que l'on peut découvrir dans nos vies, qui peuvent nous dire « Ah, ben tiens, moi j'ai plutôt cette tendance ou cette tendance ». Si tu es plus dans la passivité, ce sera plus ta colonne bleue. Si tu es plus dans le côté révolte, ce sera plus ta colonne, voilà, un peu orangée. Mais quelque part, il peut y avoir des mix des deux. C'est juste des indices, d'accord ? Vous comprenez ? Vous avez des questions ? Voilà, et ça permet de savoir où on en est. La plupart des gens réagissent par des péchés qui sont principaux. Pourquoi je dis ça ? Principalement passif, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de la soirée. Ou principalement agressif. Hein. On voit ces différentes choses. Et ça, on le voit où ? Regardez les films qui sortent à l'heure actuelle. Les déficits dans la vie, hein. Batman typique, je ne sais pas si vous connaissez, ou d'autres, de ces super-héros, ils vivent des choses, le manque d'amour, les déficits dans la vie, et le monde montre typique. Qu'est-ce qui ressort de ça ? Ben, c'est ces différents points. Alors le monde est très doué pour savoir qu'est-ce qui ne va pas et là où ça nous conduit. Seulement nous, on a Jésus. Hein. Moi, j'ai beaucoup été plutôt de la colonne passif, du bleu l'insécurité, poser des questions par rapport à si ça, la vie avait un sens. La dépression, je ne l'ai pratiquement pas vécue. Mais il y a des moments où tout d'un coup, tu pètes les plombs et tu ne sais plus où t'es. La pitié de soi, alors ça, c'était mon point fort numéro un. Le désespoir, ce n'est pas possible, j'y arriverai pas. D'autres, l'orgueil, la supériorité, c'est dans mon lit, j'ai dit, hein, j'étais le chef de gang de la ville. Ou l'amertume, très forte amertume contre ceux qui me faisaient du tort. Dieu m'a fait grâce, moi je fonctionne au pardon. Donc depuis que je suis adolescent, malgré tout, je tabassais mon coussin, ça me permettait de me calmer. Et puis ensuite je criais à Dieu pour pardonner mon ennemi. Voilà, c'est juste un ordre d'idées, d'accord ? Conclusion pour ce soir, pour cette première partie, les forteresses nous empêchent de vivre pleinement selon la volonté complète de Dieu pour nous. Ça nous empêche de recevoir sa grâce et sa miséricorde, tout comme de transmettre ces choses, la grâce et la miséricorde. Ça fait obstacle à notre désir de vivre des vies remplies d'amour et de puissance pour étendre le royaume de Dieu. Peut-être que ça peut être des indices pour dire pourquoi j'y arrive pas. Qu'est-ce qui me bloque? Et juste avant la pause, j'aimerais encore vous dire, prenez ces versets que je vous ai donnés, regardez-les. Vous avez ce genre de versets, vous les avez plus loin dans le cahier. On en lira quelques-uns tout à l'heure. Mais vous avez ces listes de versets qui sont données. Comme ça, de temps en temps, vous saurez où aller rechercher par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Peut-être si des points des autres cours ont déjà été vécus, vous aurez ces versets qui peuvent vous aider à proclamer les vérités de Dieu. Voilà, pause. Pendant la pause, regardez vos actes de présence, s'il vous plaît. Regardez dans quel groupe vous êtes maintenant et dans les salles qui êtes pour la prière, ceux qui la vivent encore ce soir. Voilà, bonne pause. On va faire plus ou moins 15 minutes, d'accord? Ça joue? Super. Ok. Alors, je vous invite maintenant à prendre la page 93. Et puis, le titre de cette page est génial. Ça s'appelle « L'héritage du chrétien ». Et il est extraordinaire, et j'aimerais vous encourager à gentiment, régulièrement, revenir là-dessus, sur cette page, et puis regarder ce qui vous parle. Alors on peut soit tout lire et autres, c'est pas ce qu'on va faire maintenant, mais la page 93 dans ce cahier, elle est pleine d'encouragement, c'est des versets de la Bible, et ça peut donc devenir, comme je vous l'expliquais avant pour ceux qui étaient là, c'est proclamer ce que Dieu déclare dans nos vies, et croire les vérités de Dieu, d'accord? Alors, j'aimerais juste, est-ce que quelqu'un serait motivé à lire dans sa Bible Hébreux 3, verset 1 ? Tu l'as lu ? D'accord ? En attendant que se prépare, quelqu'un d'autre qui prendrait Hébreux 3, verset 14 ? Qui prendrait Hébreux 3, 14 ? D'accord, très bien. Mais tu y vas quand t'es prête.
Hébreux 3, verset 1.
Oui. Et là, on voit quelque chose, peuple saint. Que ça puisse devenir une vérité dans vos vies, c'est comme ça que Dieu nous voit. Peuple saint, appelé à avoir part au bien céleste. L'autre verset ?
Hébreux 3, 14.
Oui. Apprendre à faire confiance à Dieu parce que lui nous aime tellement que nous lui appartenons. Ça veut donc dire que Dieu ne te rejette pas si tu lui appartiens. Ça, c'est une vérité qui est vraiment importante de déclarer. On tourne la page, page 94, je vais aussi demander quelques lectures. Puis là, on va voir une part de l'amour et du pardon de Dieu. Quelqu'un pour lire 1 Chronique 16, 34 ? S'il vous plaît. Dans la Bible, oui, Valérie. Quelqu'un d'autre pour 1 Jean 3, verset 1. D'accord. Puis il y en a encore deux. Quelqu'un pour Néhémie 9, verset 17. Personne pour Néhémie 9, 17. D'accord. Et puis encore une personne pour lire Jérémie 3, 22, 23. D'accord, très bien. Alors on commence par 1 Chronique 16, 34.
Célébrez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement.
N'oublions pas cette vérité. Il est bon. Pas il est père fouettard comme moi je me rappelais. Il est bon. Et son amour n'a pas de fin. D'accord ? Le suivant c'était 1 Jean 1. 3.1.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.
Nous sommes enfants de Dieu. Le verset suivant, Néhémie 9, 17.
Ils refusèrent d'obéir et ne se souvinrent pas des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur nuque et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce, long à la colère et riche en bienveillance. Et tu ne les as pas abandonnés.
Là, tu as une déclaration de la part de Dieu que peu importe ce que tu as fait, Dieu pardonne. Peu importe où tu en es, Dieu est compatissant et il fait grâce. C'est juste ce que tu mérites. Enfin, tu mérites que dalle, mais lui, il a décidé que c'était ton héritage. C'est sa déclaration pour toi. Et le dernier passage, alors, qu'est-ce que j'avais dit que c'était ? Je me suis trompé. Lamentation de Jérémie. Désolé, Lamentation de Jérémie 3, versets 22 à 23. D'accord.
Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Donc Dieu a de la bonté pour toi, encore et encore. Amen. N'hésitez pas, toute votre vie, prenez ces pages, relisez les versets, regardez ce qu'il y a, comment les choses vous parlent, revenez dessus pour vous accaparer ces vérités de la part de Dieu. Elles ont aussi leur dualité, on peut être dans l'erreur. Mais si on est dans l'erreur et que Dieu nous le révèle, c'est pas pour taper dessus, c'est pour nous faire changer. Revenez là-dessus, que ça puisse vraiment vous accompagner ces pages-là, d'accord ? Comme ça, vous le savez dans votre vécu quotidien, qu'il y a ces vérités de la part de Dieu. Après, n'hésitez pas aussi pendant cette période d'aller à la page 95 et jusqu'à 98, vous voyez marcher dans l'esprit opposé. C'est des versets qui sont en lien avec chaque thématique qui a été vue jusqu'à maintenant et chaque cours. D'accord ? Et puis moi, je vous ai fait les copies sur les papiers. Qui n'était pas là la première session ? Pour qui on a prié ? Non, aujourd'hui.
Lequel, tu dis ?
1.27. Mais quelle référence ? Il n'y a pas de 1.27.
1.27, oui, c'est avant les lamentations de Jérémie.
C'est 1 Jean.
Non, c'est Néhémie 9.17. Néhémie 9.17. 9.17, pas 1.27. 9.17. Voilà. Oui. Là, maintenant, vous avez les feuilles, je répète pour ceux qui le savaient, pour vous qui ne le savez pas, c'est les versets qui sont en lien avec le cours de ce soir. D'accord ? Pour rappeler ce que Dieu dit. Je répète aussi que ce qui est écrit, c'est soit un raccourci de ce que le verset, la référence vous dit, soit c'est l'inverse de ce que le verset montre. Si dans le verset, c'est écrit « ne faites pas comme ça », il y a le texte à côté sur la feuille qui dit « effectivement, je ne veux pas faire comme ça ». Alors, prenez le temps aussi, si tout d'un coup la passivité vous parle ce soir, de revenir sur ces versets. Voilà. Alors, j'espère que c'est toi, ça va. Yes. La passivité. Le Larousse indique que la passivité, c'est un état, une attitude qui subit les événements sans réagir. Il y a aussi un autre point dans le monde de la métallurgie, c'est on désire faire une corrosion pour transformer un métal, seulement il y a un film superficiel qui s'est déposé autour et qui le protège. Ça, c'est aussi de la passivité. Une protection non voulue. Un petit truc qui nous conforte dans notre attitude, vous voyez, qu'on n'a pas envie d'enlever, là, qui empêche qu'on soit travaillé. On subit ou on est couvert afin que la guérison ou la transformation ne se fasse pas. Et dans nos vies, on peut se laisser aller, on peut baisser les bras, on peut fuir les situations, on peut aussi ne pas bouger, on est bien là où on est, ou on peut laisser l'ennemi mettre ce film superficiel dans nos vies, alors que le Seigneur désire travailler quelque chose pour notre bénédiction. Ces points, des fois, ça se coupe. Puis quand ça se coupe, on est là, non, je veux pas que ça change, ça. Ça va me coûter cher de bouger là-dedans. Ah, mais la transformation, là, aïe, 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 ça veut dire que si je dois faire ça... C'est vrai. C'est toujours un choix. Dieu nous laisse toujours un choix. Mais ça, ça peut être le film protecteur. Ah non, non, ça va me secouer, ça va me déranger. Jésus posait toujours la question, même à ceux qu'il guérissait, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il savait bien que celui qui était mendiant depuis toute sa vie, s'il était guéri, il allait devoir se mettre à bosser. Et celui qui avait guéri, est-ce qu'il réalisait que tout d'un coup, il allait devoir se mettre peut-être à étudier ou à travailler ? Il y a tout un changement, mais le changement en Dieu donne la vie. Mais ça peut être défiant. Par contre, il faut juste qu'on fasse confiance à Dieu, c'est que lui va nous accompagner. Et nous, on voit nos clichés, peut-être pas ceux que Dieu nous donne. Matthieu 11, 12 nous indique un point important pour notre vie. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Amen. Les violents. Il peut y avoir des forteresses dans nos vies. On a vu les dernières fois qu'il y a une guerre pour nos vies, que l'ennemi veut vraiment, il veut rien savoir, il veut nous écraser. Alors on a le choix, est-ce que je veux avancer, oui ou non ? Est-ce que je désire me laisser endormir et continuer dans ma routine, écrasée, affaissée ? En fait, c'est une des clés de la vie en Jésus. Nous devrions rechercher Dieu avec détermination. Pas juste, ouais, ce serait bien que. Et puis nous empresser de faire sa volonté. Et motivé, ça c'est une clé. Mais c'est pesant, c'est parfois embêtant. Comme on l'a vu dans les derniers cours, nous avons l'autorité et la puissance de Jésus. Et on avait vu la question de la dynamite, pour ceux qui étaient là, vous rappelez. C'est puissant, ça bouge, ça secoue, ça explose. Et cela doit accompagner nos vies de foi. Si on marche avec Dieu, ça doit bouger, d'une certaine manière. On ne parle pas d'accélérer ou de tout faire d'un coup, parce que Dieu connaît nos cheminements. Et pour certains, une guérison prendra plus de temps que pour un autre. Peut-être que certains, il pourra faire là la ligne droite, puis l'autre, il devra faire un grand détour pour y parvenir. Dieu n'est pas limité. Mais est-ce que j'ai envie que ça bouge ? Et Dieu accompagne systématiquement notre cheminement. L'esprit de passivité cherche à étouffer la puissance et l'autorité de Jésus en nous. À nous rendre faibles, inefficaces, alors qu'on doit être des porteurs de l'image de Jésus et donc de son autorité sur terre. Les premiers chrétiens ont été appelés chrétiens parce que les gens voyaient qu'ils n'étaient pas comme les autres et qu'ils fonctionnaient comme celui qui était le Christ, le Messie. Voilà d'où vient le mot. Parce qu'il y a une différence qui se voit. Les racines de la passivité. Il y a plusieurs manières d'étouffer le feu de Dieu dans nos vies. Et ces choses empêchent notre détermination. Ces choses, elles bloquent nos relations. Elles limitent notre activité ou elles ralentissent nos services, nos ministères. Alors on va voir quelques racines qui peuvent contribuer à cette passivité ou manque d'initiative, manque d'activité, manque d'obéissance à Dieu. Voici quelques-unes. Découragement, c'est vrai que quand on est découragé, se mettre à bouger, c'est pas facile. Hein. Sentiment d'impuissance et d'oppression, j'y arrive pas. La dépression, et c'est clair que quelqu'un qui est en dépression, il peut plus bouger. On a vraiment besoin d'accompagnement, d'amour et d'aide. L'intimidation, et moi, non. Recherche du confort, ah ouais, mais moi je veux que ce soit comme ça. Comme moi, ça me concerne. Et puis, ça doit être parfait. Tout doit être... Trouver le bon équilibre dans la recherche de ce qui est bon, parce qu'on n'est pas, on n'est pas appelé à aller vivre dans les rues, on est d'accord. Mais souvent, dans la passivité, on recherche juste ce qui nous convient bien, notre petit confort. Ce mot-là, je ne vais pas le dire parce que je ne sais pas, mais repousser à plus tard. Oh ouais, je vais y arriver, Seigneur, je vais te prier tout à l'heure. Ah oui, bon, ben, alors je vais te prier à midi. Oh, t'as vu, j'ai pas eu le temps, là, il y a eu cette partie de jeu avec les... C'est ce soir. Oh, il y avait un film tellement bien. Je suis fatigué, Seigneur. J'ai un exemple hein, parmi un million d'autres. Peurs diverses telles que l'échec, je ne peux pas le faire, je vais louper. La confrontation, si je dis ça, on ne va pas m'aimer. Le rejet. Un autre point, la paresse et puis des quantités d'autres qui peuvent nous empêcher d'avancer. Reconnaître la passivité. La passivité, c'est une forme de rébellion puisque Dieu est actif. Si je ne veux pas être actif pour lui quelque part, il y a une rébellion contre Dieu. Mais ça peut aussi prendre la place de l'action. Je suis bien les deux pieds étalés sur mon canapé avec la télécommande dans la main. Par exemple, j'espère bien que de temps en temps, on se regarde quand même un bon film. C'est enregistré, ça. Dieu nous appelle à sortir de la passivité. Il veut que nous soyons actifs dans notre foi, la construction de nos relations, il veut qu'on puisse le vivre. Le service et tous les domaines de notre vie, qu'on puisse être à son service. Tu es artiste, utilise ton art. Tu es chanteur, utilise ton art. Tu es mathématicien, utilise ton art. Tu aimes bien les relations, utilise, etc. Il y a mille possibilités qui nous touchent où Dieu aimerait qu'on puisse les utiliser pour son service. Et c'est vrai qu'on est bien dans sa maison. Moi, je suis un gros nounours, je suis bien dans mon maison. S'il faut bouger, il faut que j'ai quelque chose, il faut que je note dans mon agenda. Là, tu bouges, sinon je suis bien sur mon canapé. Lisons les pages 79, il y a trois versets à la page 79. Sous reconnaître la passivité, vous voyez la colonne de gauche, Proverbe 20, verset 4. À la saison froide, le paresseux n'a pas envie de labourer. Au temps de la moisson, il cherche à récolter, ben, ne trouve rien. Proverbe 10, 4. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Hébreux 6, 11 à 12. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement, et ça jusqu'au bout. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Vous voyez, en dessous, il y a le point 1, qui est indiqué, toujours à la page 79, point 2, point 3, point 4, et puis à la page 80, il y a le point 5. J'aimerais vous laisser du temps, nous laisser du temps maintenant, c'est pour ça que je vous ai demandé vos stylos. Et puis on prend le temps, chacun individuellement maintenant, vous regardez dans chacun de ces points ce qui vous parle, ce qui vous touche. Pas de panique, s'il n'y en a que 3, c'est peut-être que la passivité n'est pas ton truc. Si tu en as 250, autrement dit, tu mets des cases partout, pas de panique. C'est peut-être juste que Dieu est en train de te dire « J'aimerais bien t'accompagner dans ce domaine. » D'accord ? Alors, si vous avez vos crayons, je vous laisse un temps pour faire ça. J'ai pas de cahier de réserve, si jamais, pour ceux qui ne l'auraient pas. Mais reprenez-le à la maison tranquillement et faites-le. Donc, je vous laisse un petit instant. Tu peux mettre pause, peut-être, l'enregistrement. Oui. Voilà. Être affranchi de la passivité. Il faut la reconnaître. Vous vous rappelez, depuis le début du cours, on part des 4 R. Et j'aimerais simplement maintenant que tout le monde, même si vous n'êtes pas en lien avec la passivité, je nous invite tous à prier à haute voix, à répéter les prières que je vais faire. Et on va le faire pour les 4 points des 4 R. Donc, je fais des phrases simples, vous la répétez simplement, ceux qui le comme ça, tout le monde est ensemble dans le cheminement. Et puis, ce n'est pas seulement ceux qui ont la passivité qui est tout le monde les verra. D'accord ? Le premier point, c'est reconnaître. Alors, baissons nos têtes, fermons les yeux et puis répétez après moi simplement. Seigneur, je confesse devant toi ma problématique de la passivité. Je vois combien je suis bloqué dans ma vie et dans ma foi. Pardon pour ma passivité. Pardon pour mon isolement. Pardon pour ma résistance et ma rébellion. Pardon que je me justifie par la pitié de soi. Pardon pour ma recherche absolue et abusive de confort. Pardon parce que j'ai cru en ce mensonge que j'ai nourri. Merci, à la croix, tu as payé et tu as jugé la passivité. Merci parce que tu m'offres ce pardon maintenant. Merci parce que ton amour m'a révélé cette passivité. Et merci parce que tu m'accompagnes dans ce changement. Amen. Vous savez, si vous voulez revenir dessus et prendre, mais n'hésitez pas. Mais je crois vraiment qu'on peut le faire de tout notre cœur maintenant. On va passer au point suivant. Résister. On va faire exactement la même chose. J'élève le nom de Jésus, le roi des rois et seigneur des seigneurs. J'invoque l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. J'invoque ta sagesse, Saint-Esprit, toi qui me montres ces choses. Puis là, vous allez mettre votre prénom. Et je dis, Yann, ne crois plus en ces mensonges. Passivité, va-t'en de ma vie. Je renonce à ce parcours de vie. Jésus est la vie. Il est plein de vie. Je reçois sa vie. Je renonce à la passivité et demande ton aide, ô Seigneur. Passivité, tu es sous mes pieds, je te rejette fermement. Je rejette également ton influence. Et cela au nom merveilleux de Jésus. Amen. Maintenant, on va remplacer tout ça. Je proclame que le Seigneur Jésus vit en moi. Je proclame que son dynamisme remplace la passivité. Je proclame que la parole de Dieu est vérité et elle remplace ses mensonges. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Je m'engage, ô Dieu, à ne plus laisser ces habitudes me harceler. Je m'engage à te rechercher, Seigneur, toujours plus. Te connaître et te laisser inonder ma vie de ta présence. Amen. Puis maintenant, on va recevoir. Merci, mon Dieu, pour ce pardon. Je le reçois. Et je l'accepte. Merci parce que maintenant tu me purifies de ce péché. Merci pour ton amour si grand. Viens, Saint-Esprit, remplis ma vie. Nettoie ma vie. Inonde ma vie. Rends-moi capable, toi qui me donnes les ressources de la vie. Afin que je mène une vie qui refuse la passivité. Donc, rends-moi capable, toi qui me donnes les ressources, afin de refuser. Hein. Pas que tu l'en couilles, mauvaise compréhension. Toi qui m'aides, afin que je manifeste l'initiative et la passion pour toi. Je reçois ta présence, Seigneur. Je reçois ta force et ton aide pour l'obéissance afin de participer à l'avancement de ton royaume. Amen. Vivre libéré de la passivité. Sortir de la passivité touche à notre égoïsme et à notre confort. Ça nous pousse au don de soi. Ça nous pousse à nous laisser conduire par Dieu, à le laisser être notre guide, lui. Ça nous pousse à saisir par la foi l'autorité et la puissance que Jésus nous a donnée. Ça nous pousse à rechercher, à vouloir honorer et obéir à Dieu. Quelque part, on va bénir les autres, alors. On va servir les autres, encourager les autres. Ça vient du cœur. On va faire les œuvres de Jésus et nous battre contre les plans de l'ennemi. On va résister au diable. On va entrer en résistance. Tadam. Alors, vous avez vu, il y a aussi le point 4. Vivre libéré de la passivité. Revenez dessus, regardez, il y a aussi de quoi cocher. Prenez le temps aussi pour vous, à la maison, de pouvoir gentiment retravailler ça, de regarder ces points-là. Ces déclarations et ces coups de main qui nous font réfléchir. Je vous encourage vraiment à le faire. Alors qu'on ne le fait pas maintenant, mais c'est vraiment important. Un soldat ne va pas au front sans avoir été formé. Et il se doit d'être armé, n'est-ce pas ? Et quelque part, le soldat doit être attentif et veillé de manière continue. C'est ce que nous sommes appelés à faire parce que Dieu nous y accompagne. Alors je vous encourage à revenir sur ces points, ces versets, qui parfois nous confrontent, qui nous touchent. Osez les prier, les accepter et les déclarer, comme je vous l'ai dit avant de comment j'ai vécu certains changements dans ma vie. C'est de revenir dessus, de les nourrir et de les déclarer parce que Dieu vous les a donnés. J'aimerais encore lire 3 versets pour terminer. Ils sont à la page 81. Les 3 derniers, actes 20, 34 à 35. Regardez mes mains. Ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours ce qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le verset suivant, 1 Corinthiens 9, 24-25, « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix ? Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. À l'époque, c'était des lauriers. Alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Et le dernier verset, c'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à se réjouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Je vais juste prier et on s'arrête là. Père éternel, ça fait beaucoup d'informations. Mais je sais que tu parles à chacun selon ce qu'il a besoin de recevoir, que c'était dans la prière ou depuis dans le cours. Et je te remercie et te rends grâce pour cela. Viens permettre la paix dans la vie de chacun, soit parce que tu as révélé ces choses, soit parce que tu as touché un point ou l'autre, afin que chacun puisse le réaliser comme une joie, que tu le connais et le conduis plus loin. Que ton amour saisisse chaque personne ici présente, comme celle pour qui la prière est en cours. Et aide-nous tous à continuer de grandir, parce que tu marches avec nous main dans la main. Béni soit ton nom. Amen. Voilà, on a 15 minutes d'avance. Respectons juste encore ceux qui ont la prière jusqu'à la demi. Mais on peut s'arrêter là. Si vous voulez prendre un peu du temps, il n'y a pas de souci. Si peut-être vous voulez poser des questions, on peut peut-être aussi profiter. Si vous voulez